Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clément. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici donc pour nous parler d'une exposition intitulée « Aux faits amoureux ». Donc une exposition consacrée à Béatrix de Die, comtesse de Die, d'avec Messire Rimbaud d'Orange. Donc ça c'est le nom de cette personne dont on a l'effigie habituellement sur la place de la comtesse. Là elle est en cours de restauration. Et donc cette exposition aura lieu au Louis XI. Et ça sera à partir de... Ça a commencé depuis ce dimanche 4 juillet. Juillet jusqu'au 1er août. Cette exposition donc consacrée à Béatrix de Die, pour vous, qu'est-ce qui vous en a donné l'envie ?
Alors, en fait, j'ai écrit un essai qui s'appelle « De la corruption des regards, active sur des sournoises et du pouvoir fat », qui est en fait une tentative d'écrire une histoire de la société du spectacle. Et il s'avère que de reculade en reculade, dans le temps, je suis arrivé en 1215 au Latran, qui est pour moi le début de la société moderne et le début de la société du spectacle, où une chape de plomb se pose sur la société européenne et où tous les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui sont mises en place au niveau du pouvoir. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que ce Latran avait eu une action extrêmement néfaste sur la vie sociale. C'est l'époque de la croisade des Albigeois où l'Occitanie va être mise au pas pour satisfaire à Louis IX et à sa mère, Blanche de Castille. Louis IX, qui n'est pas un saint, contrairement à ce que certains collèges l'écrivent, et sur leur façade. Et donc, je me suis aperçu qu'en 1246, lorsque l'Église a pris le contrôle de la Sorbonne, la première des choses qu'elle fit, fut d'interdire les troubadours de scènes publiques. Donc cela m'a mis la puce à l'oreille. Et il s'avère que j'ai vécu à Liège en 2000, jusqu'à peu de temps, et tout en ayant un pied-à-terre à Saillant, puisque je suis originaire de Saillant. Je suis donc occitan, d'ailleurs. Il s'avère que l'université de Liège a une section de philologie romane qui est assez célèbre dans le monde entier. Et j'ai pu trouver un petit ouvrage renéoté qui s'intitule « La littérature occitane du Moyen-Âge à nos jours. Choix de textes ». Donc ce sont des textes qui ont été choisis par des scientifiques, par des chercheurs, qui sont dans cet ouvrage à la fois en occitan, que je ne parle pas malheureusement, et en français moderne, traduit par leurs soins, etc., contrôlé. Donc nous avons affaire à quelque chose de sérieux. Ce qui n'a pas toujours été le cas au niveau des traductions, en particulier au 19e et au début du 20e siècle, où il y a eu des traductions censurées, fantaisistes, et on peut le comprendre. En fait, troubadours ont vécu une période extrêmement libre. C'est quelque chose qui est passé complètement qui a été ignoré, même par des gens très cultivés comme Friedrich Engels et Karl Marx. En fait, En fait, cette période qui va de 1100 à 1246, donc, et qui va s'éteindre très très vite devant la censure, l'inquisition et la terreur et les guerres de religion. Cette période est une période bénie parce qu'il y a à peu près 250 troubadours en Occitanie. Et à l'époque, l'Occitanie, dont nous faisons partie ici, à Die et à Saillant, c'est la limite nord de la langue d'Oc. Au-delà, c'est la langue d'Oï. Donc, cette Occitanie est en fait l'avant-garde populaire, l'avant-garde historique, l'avant-garde artistique de toute l'Europe. Et cette Occitanie, elle est rebelle, elle est joyeuse, elle vit, elle pense, elle réfléchit. Et nos troubadours sont, on dirait, les journalistes d'investigation d'aujourd'hui. Ils font un vrai métier d'éducateur, de journaliste, et en plus, ils amusent beaucoup. Ils sont des artistes à temps, puisqu'ils jouent la plupart du temps d'un luth, et ils chantent, ils tiennent à chanter très juste. Voilà.
C'est là que vous avez découvert Béatrix de Die, justement, dans ses archives de l'Université de Liège.
Pas du tout. Je connaissais la comtesse de Die pour l'avoir lue en traduction à la bibliothèque de la ville de Valence. Et je me suis aperçu qu'il y avait eu des traductions de ses poèmes auparavant, qui étaient des faux sens, des censurés, particuliers au niveau de tous les rapports avec l'amant en place du mari. Comtesse de Die ne pense pas à son amant en place de son mari, elle le veut dans son lit. Il y a une grande différence. Donc, ça, je le savais déjà. Mais disons que j'ai découvert dans cet ouvrage la littérature occitane du Moyen-Âge à nos jours, d'autres troubadours, en particulier Rimbaud d'Orange, qui a eu apparemment une relation amoureuse plutôt manquée avec la comtesse de Die. Mais on a très peu de documents là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'Église a censuré, détruit, a essayé d'effacer toute trace de cette époque qui, pour elle, était marquée du sceau du diable, quelque part. Ce qui est d'autant plus intéressant dans ces textes, c'est qu'ils sont choisis pour toucher à des domaines totalement différents. Il y a le texte, par exemple, sur la guerre. Et alors ça, c'est une technique traditionnelle des troubadours. Ils pratiquent le second degré, que c'est quelque chose d'assez moderne. Et donc, ils parlent de quelque chose en le glorifiant. Et puis, ils le décrivent de manière assez réaliste pour à la fin dire, finalement, c'est pas si bien que ça. Et là, en l'occurrence, il y a une chanson, puisque ce sont des chants. Hein. Ce sont des chants qui sont moitié récit, moitié chant, récit et accompagné de musique. Et là, par exemple, il y a un chant sur la guerre, les barons qui partent en guerre, qui se termine par des descriptions de corps qui crient au secours et qui ont des lances en travers des côtes. Et en général, il y a une chute qui est assez rapide et qui est courte et qui explique que tout ça, c'est bien, mais ça serait bien mieux que d'arrêter la guerre et de s'occuper un peu plus de la vie civile. Voilà, par exemple.
Vous disiez donc que le troubadour était en quelque sorte un journaliste qui propageait les nouvelles, parfois au second degré, hein, pour en rire. justement, la comtesse de Die, Béatrix de Die, elle avait aussi cette fibre journalistique, en quelque sorte.
Dans le cas de la comtesse de Die, c'est plutôt les affaires de cœur qui l'intéressent. Et donc, la sexualité à cette époque-là est débattue de manière extrêmement libre. Et elle participe de ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, de poétesses à l'époque. D'ailleurs, il y a un spectacle qui se prépare ici à Die à ce sujet. Et je voudrais justement, pour souligner cet aspect, vous avez un débat des dames Carranza et Idelsda du XIIIe siècle. Qui est donc un poème de troubadour et qui met en scène deux dames, une dame qui a de l'expérience, qui est plus âgée, et une jeune fille, et qui pose des problèmes féminins par rapport au mariage et par rapport à la jeunesse des enfants. Et c'est quelque chose de tout à fait admirable parce que, je dirais, ça n'a pas pris une ride. Je dirais que ce débat est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui comme auparavant.
D'ailleurs, vous souhaiteriez peut-être nous lire un passage ?
Je veux bien, oui. Dame Carranza, belle et gracieuse personne, donnez-moi un conseil comme de sœur à sœur. Puisque vous savez parfaitement distinguer ce qui est mieux, conseillez-moi, suivant votre sentiment, prendrais-je un mari de notre connaissance ou demeurerais-je jeune fille ? Voilà qui me plaît, avoir des enfants ne me dit rien de bon, et être sans mari me paraît quelque chose de fâcheux. Là, vous avez un problème existentiel qui est vraiment moderne.
Justement, je vous ramène sur cette notion de journalisme. Est-ce que Béatrix de Die, en quelque sorte, est une journaliste de son époque, de la condition de la femme aussi
Absolument.
Et dans ce cas-là, ça serait bien de peut-être replacer aussi le contexte de l'époque. Dans ce texte, on semble penser qu'une femme qui n'est pas mariée, c'est très fâcheux. Donc, c'est un malheur, en quelque sorte.
C'est pas tout à fait ça.
D'accord. Alors.
Pas du tout même. C'est l'époque où l'on prêche l'amour, où les troubadours prêchent l'amour fidèle, véritable et réciproque, et où l'amoureux doit se comporter de manière élégante et raffinée. Il doit même, dans un texte, il est même dit qu'il doit être très propre. Et c'est la femme qui décide. Et la femme a beaucoup de pouvoir par rapport au choix du mari, du mariage. Et tout ceci est quelque chose de souligné par les troubadours, qu'ils soient masculins ou féminins. Et en même temps, souligner de façon à contrecarrer une tendance que nous connaissons que trop, au machisme, qui est dénoncé par les troubadours, une tendance à la brutalité conjugale. Et vous avez des textes sur la brutalité conjugale, où, de toute évidence, le troubadour, en l'occurrence Rimbaud d'Orange, est vraiment décidé à en découdre avec son auditoire qui est masculin pour les mettre face à un miroir quelque part, le miroir de leur brutalité et de leur grossièreté. Et c'est tout à fait exemplaire et tout à fait... En plus, c'est poétique, c'est bien fait, c'est bien chanté, c'est accompagné d'une belle musique libre. C'est vraiment un grand mouvement poétique.
À cette époque, la musique ne s'écrivait pas, je crois. Comment se transmettait-elle et en restait-il quand même quelque chose de sa musique ?
Alors, il reste quelques... En fait, il y avait des thèmes généraux qui revenaient souvent. chaque troubadour avait aussi ses compositions et qu'il adaptait au fil des textes. Donc il y avait des textes, je dirais des textes gays, des textes moins gays, des textes un peu plus journalistiques. Donc suivant le type de texte, il changeait de musique et il improvisait. C'est ainsi que le mot, par exemple, « déchant », qui est tombé en désuétude. Et le déchant, c'était lorsque le troubadour allait se produire, il s'entraînait sur son luth librement. Et donc, il créait des improvisations. Et ces improvisations étaient souvent dissonantes et abruptes. D'où le nom de déchant. Cette notion est rentrée dans la musique baroque, où les lignes de basse étaient libres, puis a été interdite par l'Église, là aussi. L'improvisation a été interdite par l'Église. Il fallait composer de manière écrite et soumettre la composition au dogme pontifical. Il y avait des prêtres qui étaient spécialisés dans la musique. Ils disaient « cette musique-là est conforme, celle-ci ne l'est pas ». Il y avait une censure abrupte qui s'installe à partir du latran.
Voilà, et ça a duré des siècles. Hein. Je crois qu'il y avait des grands compositeurs, Jean-Sébastien Bach, qui passaient aussi devant ces conseils catholiques.
Exactement. Et en même temps, comme c'était un génie...
catholique, il était protestant plutôt, je crois.
Après, oui.
Oui, enfin bref. Et donc, il y avait toujours cette mainmise de l'Église sur la création musicale.
Sur les arts. Alors, cette mainmise, elle date donc de 1215. Avant, voilà. Et j'y reviendrai parce que je veux aborder un domaine qui est quelque chose qui est toujours en vigueur aujourd'hui et que peu de gens savent. Mais j'en parlerai après. Mais vous avez par exemple au niveau, et c'est dans l'exposition justement, bien que ça soit postérieur, il y a une peinture qui s'appelle « Mona Lisa n'était pas une potiche ». En fait, j'ai repris un portrait, une reproduction de la Mona Lisa. Et je l'ai revêtu d'une sorte de voile, enfin de résille. Et Mona Lisa change totalement. Elle devient une vraie femme, contrairement au portrait de Leonardo Vinci. En fait, Leonardo Vinci a eu un... Et ça a été scandaleux, la manière dont la presse a célébré la dernière commémoration de Leonardo Vinci. C'était une autocensure épouvantable. Personne, mais je dis bien personne, que ce soit à France Culture ou ailleurs, n'a souligné que c'était un travail de commande, que Mona Lisa était une femme qui avait subi un mariage forcé et que la commande disait « il faut qu'elle soit présentable et il faut qu'elle ait un petit sourire ». Et comme chaque peinture à l'époque était soumise à la censure épiscopale, l'Église a donné son blanc-seing et a dit « ce sourire est magnifique, c'est le sourire de la grâce divine ». Donc, ce mot est resté dans l'histoire. Et les peintres courtisans, ceux qui voulaient être bien vus du pouvoir, si je puis dire, on ne va pas les appeler des artistes, on va les appeler des valets, ont reproduit ce sourire qui est devenu à la mode. Et Leonardo Vinci a eu une renommée grâce à ce sourire qui avait été reconnu par le pouvoir. Bon, en réalité, il s'agit vraiment que d'un... C'est vrai que Leonardo Vinci savait faire ça. Il savait tout faire, c'était un petit génie. Mais le contexte n'est pas vraiment favorable à Leonardo Vinci, si je puis dire.
Qu'est-ce qui est proposé à la vision des visiteurs ?
Alors, il y a d'abord... Des textes originaux des troubadours d'époque. Donc un texte, j'y reviendrai sur l'obade de Cadenet, ce qui est une obade. Il y a un texte qui est absolument magnifique au second degré, de Rimbaud d'Orange, « Comment il faut traiter les femmes ». C'est une leçon donnée aux hommes. Et il y a un texte assez érotique de la comtesse de Die. Voilà. Et puis, à part ça, il y a des textes explicatifs et un texte d'introduction sur le contexte de l'époque. Et ensuite, pour agrémenter le tout, il y a les bois trouvés des sculptures, donc en bois mort, soit flotté, soit trouvé, de Jean-François Fulacher, qui est un crétois et qui s'harmonise très bien avec l'esprit de ce Moyen-Âge. Et donc des figures un peu fantastiques, des silhouettes de femmes, de couples, un bestiaire assez moderne, très Picasso. Et puis mes peintures, enfin, qui sont des peintures à la cire, donc une très vieille tradition de peinture à la cire sur toile. Voilà.
Alors, ces œuvres de Jean-François Fulacher sont de quel ordre de taille ?
Ces œuvres sont de grandeur variable. Elles vont de 30 cm jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Et il y en a certaines qui sont assez imposantes. Voilà.
Et donc, c'est le rapport homme-femme qui est aussi proposé sur ces images,
oui,
sur ces œuvres. Et vos points de vue, quels sont-ils ? Vous vous êtes inspiré directement des écrits de Béatrice Dedi ou de vos recherches littéraires ? Ou alors, vous avez aussi amené votre personne aussi dans cette œuvre ?
En fait, j'ai un style très particulier qui est extrêmement fluide et extrêmement libre. Et je pratique une sorte de gestuelle automatique. Et il s'avère que beaucoup de gens, ils voient par exemple la peinture de Bosch, par exemple la peinture du Moyen-Âge. Il est vrai que j'aime beaucoup le clair-obscur, la profondeur des ombres. Et donc, cette période, je la vois, je vois très bien. J'écris un poème sur la comtesse de Die où je l'imagine dans son château un peu sombre, vivre dans une sorte d'intimité faite d'ombre et de très feutrée et très.
Voilà. Tout à l'heure, vous parliez de la société du spectacle par rapport à l'expression artistique. Vous aviez dit que cette chape de plomb a été instaurée à partir de quelle époque ?
Donc, justement, cette liberté de mœurs qui règne en Occitanie est intolérable pour la royauté, pour Blanche de Castille et pour le pape Innocent III. L'Église a beaucoup de difficultés à l'époque. Ils sont au bord de la ruine et au bord de la catastrophe. Il y a un développement des forces productives assez énorme et ils ne contrôlent plus rien. L'idée du pape, qui avait été étudiant à la Sorbonne, qui est une des trois grandes universités européenne de l'époque, c'est de contacter des anciens collègues à lui, étudiants, de les rémunérer bien pour trouver une solution de secours à l'Église qui est en train de mourir, parce qu'un des facteurs les plus importants, c'est qu'à l'occasion du millénaire, l'an 1000, ils avaient expliqué aux pauvres que c'était la fin du monde et qui risquait d'aller en enfer. Donc il y avait eu une vente de. C'est l'époque où, pour la rédemption des âmes, on vend des indulgences. Or, le millénaire est passé et l'Église est toujours là, riche certes, et les pauvres sont toujours là, mais encore plus pauvres qu'avant. Donc, il s'agit vraiment de trouver une parade à tout ça. Et donc, le pape va avoir l'idée, au Concile du Latran, de trouver une parade juridique qui va proposer aux puissants de l'époque européen qu'il va réunir. Il y aura 800 personnes au Latran, qui est un lieu donc italien. Et devant cet aéropage de, de diplomates, de commerçants et de rois. Il va proposer une réforme complète de l'Église, qui va, bon, c'est assez long à expliquer, j'ai écrit un essai là-dessus, mais je vais vous donner simplement un exemple de ce que demandent les puissants. Le droit du mariage avant le Latran est d'une liberté absolue. C'est-à-dire que d'abord, premièrement, les curés sont mariés. Ils vivent dans l'Église avec leurs femmes et leurs enfants. Ils ont un potager, ils ont des poules, etc., etc. Et pratiquement, l'Église est leur lieu de vie. Et lorsqu'il y a un mariage à célébrer, on abandonne les tâches domestiques et on va célébrer le mariage. Et en 5 minutes, vous êtes marié devant Dieu pour l'éternité. Donc, les parents dans cette affaire n'ont pas grand mot à dire. Donc, c'est une période bénie pour les mariages d'amour. Et ça, vraiment, c'est contraire aux intérêts grandissants des grands bourgeois, des aristocrates, des rois. Donc, il faut empêcher tout ça.
Justement, je voudrais vous arrêter. Vous en avez les raisons de ces contre-attaques de la bourgeoisie contre le mariage d'amour.
C'est très simple. C'est le droit d'héritage. Rassembler les fortunes pour qu'elles soient plus opérantes. C'est les mariages de raison. C'est le mariage de raison qui est dans les têtes à ce moment-là pour dire. En plus, il y a le mariage raciste aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas marier une bergère ou bien une berbère à un noble. Les nobles veulent rester entre eux.
Vous parliez tout à l'heure donc de cette censure à l'adresse des troubadours, des saltimbanques. Et pour ça, est-ce que c'est aussi la raison, peut-être pour le pouvoir, de s'amener lui-même comme spectacle aux yeux de la population ?
Oui, c'est une substitution de ce spectacle. Je vais finir sur la question du mariage, parce que ce qui va vous étonner certainement, c'est que la mesure prise par le pape de 1215 est toujours en vigueur aujourd'hui. Et sur ce point-là, il a réussi ce tour de force de le faire passer dans la société civile et dans le droit civil. En fait, c'est la déclaration des bans. Et c'est la déclaration des bans préalable à tout mariage date de cette époque. Et c'est le droit de délation. Et ce n'est pas une petite chose pour l'époque, parce que si vous ne le faites pas à l'époque, vous pouvez passer devant l'inquisition. C'est peut-être un motif de passer devant l'inquisiteur. C'est un péché mortel. Donc, ce droit est passé dans le droit civil. Si vous êtes marié, je ne sais pas, mais vous saurez que le maire, lorsque vous vous mariez, demande « Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce mariage ?» C'est quelque chose qui est, d'un point de vue, je dirais, amoureux, absolument intolérable. Mais c'est dans la Constitution de la France.
Et notamment aussi les pays chrétiens.
Ben bien sûr.
Je reviens, donc cette substitution du spectacle par le pouvoir, qu'on peut aussi voir aujourd'hui.
Oui, ben le dernier exemple, c'est le milliardaire qui vient de passer quelques heures dans l'espace. C'est le spectacle destiné aux pauvres. Lorsque le roi de France... Louis IX accueille le roi d'Angleterre et il l'accueille par un festin absolument gigantesque, alors que Louis IX est connu pour être pingre avec lui-même, enfin très ferveux de pauvreté. Mais quand le roi d'Angleterre vient, c'est un festin énorme qui est offert à la vue des Parisiens, qui ont accès à la salle, qui peuvent regarder. Ils peuvent regarder, mais pas toucher. Et si vous voulez le voyage dans l'espace, on peut regarder, mais on ne touchera pas. Nous ne verrons pas nous-mêmes la Terre de 80 km de haut. C'est réservé à une élite, entre guillemets, qui n'en est pas une d'ailleurs. Voilà. C'est la même chose, par exemple, pour les réceptions de M. Macron à Versailles. Voilà.
Et donc, cette exposition, donc vous citiez vos œuvres, celle de Jean-François Tulachi. D'autres artistes sont présents
non,
aussi
non. Non, c'est une de...
Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler du travail justement de Jean-François? Vous parliez de bois flotté, de bois.
Oui, ben il est fasciné par tout ce qui est bois trouvé, pour tout ce qui est. Ben, beaucoup de gens le sont dans la vallée. Je me propose d'ailleurs de, s'il y a des auditeurs que ça intéresse. Je me propose d'organiser un festival qui s'appellerait « Rencontre avec le hasard ». En fait, le hasard fait toujours bien les choses. Et le hasard excite l'imagination, l'imaginaire, et provoque la poésie. Et venez visiter cette exposition, vous verrez des lignes naturelles qui sont en osmose avec l'érotisme doux de la comtesse de Die. Il y a beaucoup de formes féminines. Moi, je suis le peintre de la ligne féminine.
Justement, vous parliez de gestuels pour peindre. Oui. C'est aussi le hasard qui applique les touches, les traces sur la toile.
Lorsque j'ai commencé à peindre, je n'avais jamais peint de ma vie, et j'avais déjà 38 ans. Et pour moi, j'avais lu les manifestes, le premier manifeste du surréalisme, et j'en ai déduit que je devais trouver des formes d'expression propres. Et la première des formes, c'était tous les matins, je faisais une heure de gestuelle automatique. À l'époque, je travaillais avec de la colle sur du papier thermique qui réagissait et donnait des formes tridimensionnelles. Et j'ai commencé à interpréter avec mon imaginaire. Et je ne vous cache pas qu'au début, c'était très, très dur. C'était un effort presque limite pour arriver à... Et donc, peu à peu, et c'est tout à fait étonnant, le gestuel s'affirme, et surtout, l'imaginaire interprète presque automatiquement.
Lors de vos créations de toiles, de peintures, parfois s'ensuit une déception du résultat. Et moi, j'appelle ça mijoter, laisser mijoter, c'est-à-dire d'oublier ce travail pendant des mois, voire quelques années, et puis de le retrouver, le découvrir de nouveau, et de là, d'y trouver un intérêt de nouveau.
Et il m'arrive effectivement de faire une rétrospective personnelle. Et effectivement, ce que je vois, c'est l'évolution. Il y a une évolution. Il y a des œuvres qui sont plus tristes que d'autres. Il y a un lien direct avec l'état de psychique dans lequel je me trouve au moment de faire la peinture. Et en même temps, il y a une évolution qui se produit, je dirais, plutôt positive, parce que le travail s'affirme, devient plus précis, plus élégant, je dirais.
Cette exposition dédiée aux faits amoureux, et ça commence à quelle heure, justement, cette présentation? Enfin, les ouvertures sont de quelle heure?
Les ouvertures, alors, c'est très simple. Nous avons, comme j'habite dans le village, j'ai laissé mon numéro de téléphone à l'entrée, Et donc, en quelques minutes, je suis là. Par contre, j'ouvre spontanément dès que j'ai un peu de temps, et surtout le week-end. Et donc, les heures d'ouverture sont assez aléatoires, mais bon, en général, le samedi après-midi, le samedi soir, à partir de 6 heures, je suis là, même 5 heures.
Cette exposition vous a pris un certain temps pour la monter
Je l'avais dans ma tête, j'avais tout ce qu'il fallait.
Vous étiez venu il y a quelques années aussi pour nous parler d'une exposition qui n'a pas eu lieu, je crois.
Un festival.
Un festival.
Qui a été censuré.
Un festival dédié à la peinture d'art brut.
Voilà.
Y a toujours pour vous cet intérêt de cet aspect artistique?
Alors, il s'avère que j'ai premièrement une collection qui est assez conséquente d'art populaire et d'art psychiatrique que j'aimerais bien donner à une municipalité et en échange de la construction ou de mise à disposition d'un lieu de 300 ou 400 mètres carrés. Quand je vois, les dépenses inutiles qui sont faites dans la vallée pour des projets qui n'en valent pas la peine, je suis un peu dépité parce que, bon, ceci étant, je suis au début de mes recherches et j'accepte toutes les propositions, je les étudierai. Sachez simplement que j'ai fait des études assez précises sur le sujet, j'en avais parlé d'ailleurs à votre micro assez longuement, et que le musée que je me propose de faire n'a pas d'équivalent actuellement au monde parce qu'il manque... dans tous les musées qui existent, il y a une confusion absolument énorme qui n'a que d'équivalent que les musées gallo-romains, par exemple, qui mélangent l'art du conquérant et l'art des conquis, alors que les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, j'ai fait un effort, disons, de présentation et de catalogue, si je puis dire.
Vous seriez plutôt donc dans l'aspect de l'art des conquis, vous.
Oui, parce qu'il est authentique. Je ne dis pas que les conquérants n'ont pas d'art, mais la conquête a abâtardi les artistes. Donc non, vous avez par exemple des études qui ont été faites par Loduca sur l'art des Étrusques, avant les Romains. L'art des Étrusques, vous le voyez dans des... collection mélangée avec de l'art de l'Empire. Vous voyez, si vous avez la culture préalable, vous voyez nettement la différence entre des figurines de personnages qui sont vivants, qui présentent des aspects de réelle vie, et puis des statues de pompeuses, de Pompée, si je puis dire, qui n'ont aucun intérêt.
Qui sont souvent des représentations d'élite.
Oui, et puis qui ont des buts très barbares. C'est moi l'empereur. On doit me respecter. C'est moi qui prélève l'impôt. Et il faut savoir, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon essai, que les statues des empereurs étaient aux quatre coins de l'Empire à l'époque. Et que lorsqu'un empereur mourait, on enlevait la tête et on la remplaçait par une nouvelle tête. On ne peut pas appeler ça de l'art, n'est-ce pas?
C'est du Lego.
Voilà. Alors, justement, à ce sujet, notre région, je crois qu'il y a peu de gens qui... Et c'est un vrai problème parce que l'histoire est dans nos gènes. Moi, je suis originaire de Saillant. Et... Nous avons des origines celtiques. À l'origine, nous étions celtes. Mais de cette période celtique, il reste presque rien. Pourquoi ? Parce que nous avons été colonisés par les Romains de manière extrêmement barbare. Chaque fois qu'un proconsul arrivait, il multipliait les impôts par deux. Régulièrement, il y avait des révoltes, évidemment, qui étaient réprimées dans le sang. Une des révoltes célèbres s'est terminée à l'embouchure de l'Isère, où les Celtes ont été massacrés par les, par les mercenaires romains. Donc nous vivons un peu dans cette situation de gens qui ont perdu leur culture. Et je dois dire que la culture occitane de la comtesse de Die, c'était une véritable tentative de se refaire une histoire, mais qui a avorté aussi.
Tous vos travaux ou cette exposition, peut-on la découvrir sur Internet, par
non,
exemple
non, oui.
Non. Et comment le public peut s'informer? D'ailleurs, je mettrai le numéro de téléphone, si c'est possible, oui. Sur l'article qui sera sur page de l'émission.
On peut me rendre visite à Saillant en prenant rendez-vous. J'ai déjà beaucoup montré aux citoyens de Saillant ma collection, donc, qui les a captivés, la collection d'art populaire. Et j'envisage d'ailleurs de faire continuer ces expositions régulièrement. Et je pense que la prochaine exposition serait sur le thème le nu féminin vu dans l'imaginaire populaire. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ce serait avec des peintures de ma collection. Et il y aurait certainement un petit texte de présentation. Voilà.
Ça sera l'occasion pour vous de revenir à Erdivois nous en parler. Et je vous remercie donc, Clément, d'être venu nous parler de cette exposition Aux Fées Amoureux, qui a commencé depuis le dimanche 4 juillet jusqu'au 1er août. Et ça se passe au Louis XI.
À Saillant.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.